Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous d'information de 18h. Je suis Gisèle Cage et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette édition. L'actualité de ce mardi est riche et variée. Voici d'abord le principal titre. 350 millions de dollars à récupérer. Le gouvernement passe à l'offensive. Le ministre intérimaire de l'industrie accorde 30 jours aux débiteurs du FPI pour régulariser leur situation avant d'éventuelles poursuites. Tracasserie routière, la grogne monte dans le sud Kivu. Des voyageurs mettent en cause certains combattants Wazalendo dans des perceptions allant jusqu'à 50 000 francs congolais sur plusieurs axes routiers de la province. Malnutrition, les aliments locaux au cœur de la riposte. Invité du jour, le docteur Patrick Numbi Chikala, expert du Pronanut RDC, présente les atouts des productions locales pour améliorer l'état nutritionnel des populations. $350 millions à récupérer. Le gouvernement passe à l'offensive. Le ministre intérimaire de l'industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, appelle les entreprises et les particuliers rédevables envers le fonds de promotion de l'industrie FPI à régulariser sans délai leur situation. Invité lundi dans l'émission au Capi Service, il a révélé que le montant total de créances à recouvrer atteint $350 millions. Les débiteurs sont invités à se présenter volontairement au FPI pour rembourser une partie des fonds perçus et bénéficier, si nécessaire, d'un plan d'apurement pour le solde. Un délai de 30 jours leur est accordé. À l'issue de cette période, les dossiers de débiteurs qui ne seront pas conformes à leurs obligations seront transmis aux instances compétentes pour l'application des mesures arrêtées par le gouvernement. Écoutons le ministre Justin Kalumba au micro de Jody Daniel Nkashama.
Nous avons trouvé un portefeuille de près de $350 millions qui est en souffrance en termes de recouvrement au FPI. Et nous avons donné 30 jours à tous les débiteurs pour qu'ils rentrent en contact avec le FPI pour pouvoir payer. Parce que ça doit être recouvré. Et ce recouvrement va aussi nous aider non seulement à financer des études pertinentes, des faisabilités d'implantation de nos unités industrielles, mais aussi financer ces unités industrielles. Donc on ne peut pas avoir pris de l'argent de l'État parce que l'origine est quand même publique, c'est la TPI. Et rester dans son fauteuil, bien assis, n'est pas payé. C'est pour ça que nous voulons aussi rompre avec cette culture de la gratuité. Allez auprès du FPI, montrez votre bonne foi en payant une partie et puis obtenez un échelonnement du reste. Le recouvrement forcé va commencer à l'issue de ces 30 jours qui ont été donnés comme préavis. Donc restons aussi patriotes sur ces choses. Donc il est vraiment important que les uns et les autres relaient ces messages. Nous allons être sans pitié.
Le Maniema s'apprête à renforcer ses infrastructures de transport fluvial. La province bénéficiera prochainement d'une barge de fret d'une capacité de 500 tonnes ainsi que d'un bateau pousseur pour améliorer la desserte entre Kindu et Ubundu. Cette annonce a été faite lundi lors d'une réunion sur le développement des échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie à travers le corridor central. En mission au Maniema, une délégation tanzanienne conduite par l'ambassadeur de Tanzanie en RDC est venu explorer avec les acteurs locaux les opportunités d'affaires et d'investissements susceptibles de dynamiser les relations économiques entre les deux pays. Le reportage de Florence Kizalunga.
Pour l'autorité provinciale, ce projet constitue une avancée majeure pour le désenclavement du Maniema. Moussa Kabankoubi salue une initiative qui devra faciliter les échanges avec Kisangani et au-delà avec Kinshasa.
C'est très capital pour nous parce que ça va contribuer au désenclavement de la province du Maniema via la ville de Kisangani.
Selon le secrétaire exécutif du corridor central, le financement du projet est déjà disponible. Maître Flori Okanjo indique que l'objectif est de livrer la barge et le pousseur avant la fin de l'année.
Nous avons reçu l'instruction du pays, la RDC, nous demandant de financer la construction de ces barges plus pousseurs. Nous avons mobilisé les financements. Pour le moment, les fonds sont disponibles et nous allons, avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Gouverneur, signer le mémorandum d'entente. Et après ça, ça sera la mise en œuvre du projet que nous comptons, si tout va bien, livrer avant la fin de cette année.
La rencontre s'est poursuivie avec une visite site technique de l'aéroport national de Kindu. Objectif, évaluer les possibilités de renforcer la connectivité aérienne entre Dar es Salaam et la capitale provinciale du Maniema. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Les étals des marchés de Mbujimayi au Kasaï oriental débordent actuellement des tomates fraîches. Très prisées par les ménages, cette denrée occupe une place importante dans l'alimentation grâce à ses nombreuses qualités nutritives. Entre consommation bienfaite pour la santé et disponibilité en cette saison sèche, découvrons l'univers de ce produit incontournable. Reportage d'Esterne Dalafina.
Au grand marché Bakwadianga, impossible de manquer les montagnes de tomates qui s'alignent sur les stands. Des paniers entiers arrivent chaque matin en provenance de Mweneditu, Luputa et des quartiers périphériques. Cette abondance a fait chuter les prix. Un tas de 8 tomates moyennes vendues entre 1500 et 2000 francs congolais il y a un mois se négocie aujourd'hui à seulement 500 francs congolais. Une baisse qui réjouit les ménagères. Sur le plan sanitaire, Dr Charlie Mukendi précise que la tomate joue un grand rôle dans l'organisme.
La tomate apporte de l'eau et un peu de la vitamine C, considéré comme un antioxydant qui aide l'organisme à se décharger de certains problèmes.
Pour le professeur Célestin Kadima de l'IOM, au-delà de ses qualités nutritionnelles, la tomate associée à d'autres produits pharmaceutiques peut améliorer certains cas d'infertilité masculine.
Des hommes qui ont des problèmes de baisse de fertilité, surtout si cela est causé par des infections, il faut administrer des antioxydants. L'une des substances antioxydantes très puissantes que les autres, c'est celle qu'on trouve dans les tomates.
Très appréciée, la tomate est parfois servie comme dessert. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le complexe théicole des Boutou et Renou avec la production après plusieurs années d'inactivité. Située dans le groupement Malio en territoire de Lubero, cette unité de transformation du thé a officiellement repris ses activités lundi en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage ainsi que des autorités locales. À cette occasion, Mouindo Nzangi a réaffirmé la volonté du gouvernement de soutenir la relance de cette filière considérée comme un levier des créations d'emplois et de développement économique dans la région. Le point avec Marc Marofimbo.
Cette relance constitue un soulagement pour les producteurs de la région. Malgré l'arrêt prolongé de l'usine, de nombreux agriculteurs avaient continué à entretenir leur plantation de thé. La remise en service de cette usine devrait désormais permettre une transformation sur place de la production, améliorer les revenus des agriculteurs et créer de nouvelles opportunités d'emploi au profit des populations locales. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner le développement de cette filière. L'ambition affichée est de redynamiser cette culture de rente et de favoriser à nouveau l'accès du thé congolais aux marchés internationaux. La manifestation a également été marquée par la distribution des semences agricoles à plusieurs centaines de producteurs. Des semences de haricots, de maïs, d'arachides et d'autres cultures vivrières ont été remises aux bénéficiaires pour contribuer à l'augmentation de la production agricole dans cette partie du Nord Kivu. Les autorités annoncent enfin la poursuite de cette campagne d'appui au monde rural dans les prochains jours à Kavinyong et dans la chefferie de Bachou où un important lot de tracteurs devait être remis aux agriculteurs. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Des barrières qui font grincer des dents. Dans le sud Kivu, de nombreux voyageurs dénoncent la multiplication de points de contrôle sur les axes Uvira, Luvungi, Mwinga, Uvira et Uvira, Fizi, Baraka. Ces barrières attribuées par des usagers à certains combattants Wazalendo engagés aux côtés des FARDC dans la lutte contre l'AFC M23 seraient l'occasion d'exiger des paiements variant entre 10 000 et 50 000 francs congolais. Une situation qui suscite l'inquiétude des populations et des opérateurs de transport confrontés à une hausse du coût des déplacements et du transport des marchandises. Le Conseil territorial de la jeunesse de Mwinga dénonce ces pratiques et appelle les autorités à y mettre un terme. De leur côté, les autorités provinciales exhortent le Wazalendo au respect des mesures arrêtées par le Conseil provincial de sécurité. Reportage de René Lintimbonera.
Selon Mukamba Gaspard, président du conseil territorial de la jeunesse de Mwinga, les passants sans distinction d'âge sont contraints de s'acquitter des sommes exigées aux différentes barrières. Il affirme que les personnes qui refusent ou hésitent à payer seraient victimes de mauvais traitements.
Dans moins de 10 km, vous êtes contraints de payer pas moins de 200 000 francs. Or, Avec cette vie, la population ne peut rien faire. Surtout la jeunesse qui est cible. C'est comme si les soldats qui sont affectés en territoire de Mwenga ne veulent pas voir les jeunes. Une fois rencontré un jeune, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, on vous ravit l'argent, on vous ravit les téléphones. Et si c'est une fille, on la récupère par force comme leur femme.
Réagissant à ces dénonciations, le vice-gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Lacano, appelle toutes les composantes de Wazalendo au démantèlement de toutes ces barrières.
Ma barrière payante.
Nous avons observé qu'il existe plusieurs barrières illégales et payantes établies sur les tronçons Uvira Lubungi, Uvira Baraka et Baraka Misisi. Nous prions de bien vouloir enlever toutes ces barrières.
Signalons que certaines factions de Wazalendo sont régulièrement citées dans des rapports les accusant des violations des droits humains dans les zones sous leur contrôle.
Le calme observé ce dernier mois à Djougou est de nouveau mis en épreuve. Des combats ont opposé lundi les FARDC aux miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, dans les collines du village d'Euro. Selon des sources sécuritaires, 3 combattants ont été tués et 2 autres grièvement blessés. Les combats ont provoqué la panique parmi les déplacés du site d'Euro, contraignant plusieurs familles à fuir temporairement la zone. Face à cette situation, des notables appellent au renforcement du dispositif sécuritaire. Les détails avec Martial Kizabiamongo.
Les affrontements ont éclaté lundi vers midi, heure locale, lorsque des éléments de la CRP de Tobalobanka venus des villages d'Hiro et Mbujona ont lancé une attaque contre une position de FARDC sur la colline d'Hiro. Les assaillants auraient utilisé des mortiers de calibre 60. D'après des sources sécuritaires, ils soupçonnaient les militaires d'avoir menacé des cultivateurs en provenance du site du déplacé d'Hiro. L'armée a riposté à l'armée lourde. Les échanges de tirs ont duré plus de 3 heures. Les bilans provisoires communiqués par les FARDC fait état des 3 combattants de la CRP tués et des 2 autres grièvement blessés. Cette reprise des hostilités inquiète les défenseurs des droits humains qui redoutent une nouvelle escalade de violence dans cette partie de l'Ituri. Il s'agit du premier affrontement signalé entre les FARDC et la CRP depuis le cessez-le-feu unilatéral décrété par ces mouvements armés le 14 mai dernier dans le but de favoriser les efforts des Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
En Nord Kivu, des centaines d'habitants restent sous le choc après le pillage qui ont accompagné lundi les combats entre l'AFC M23 et une coalition de groupes Wazalendo dans le groupement d'Ikobo et de Kisimba en territoire de Walikale. Bien qu'une accalmie soit observée depuis la fin des combats, la situation demeure volatile en raison de la présence de 2 forces belligérantes dans la zone. Les détails avec Jean Gando.
Lundi, entre minuit et 14 du matin, des combattants Wazalendo dirigés par le général autoproclamé Jonas Bigabo ont mené des attaques simultanées contre plusieurs positions de l'AFC M23 dans les groupements d'Ikobo et de Kisimba. Selon des sources locales, les affrontements ont notamment touché les villages de Kalongé, Kasopo, Rusamambu, Buleusa et Katekoum. Toute la journée de lundi, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans ces localités. En raison des détonations d'armes lourdes et légères, de nombreux habitants se sont réfugiés dans la brousse, tandis que d'autres sont restés confinés dans leurs habitations. La plupart des déplacés ne sont revenus que dans la soirée après une baisse de l'intensité des combats. D'après plusieurs notabilités locales, les combattants Wazalendo ont occupé certaines localités abandonnées temporairement par les éléments de l'AFC M23 pendant quelques heures. Ces sources déplorent également d'importants actes de pillage à Buleusa, chef-lieu du groupement d'Ikobo, ainsi que dans l'agglomération voisine de Rusamambu. Des kiosques et commerces ont été entièrement dévalisés, tandis que plusieurs ménages ont perdu des biens de valeur. Ces nouveaux combats surviennent après plusieurs semaines d'accalmie dans cette partie du territoire de Walikale. Malgré les retours relatifs au calme observé depuis lundi soir, les habitants redoutent une reprise des hostilités. La présence continue des 2 camps dans la zone entretient un climat de peur et d'incertitude au sein de la population civile.
Quand l'emploi se fait rare, la débrouille devient une nécessité. À Matadi, au Congo central, de plus en plus de jeunes se tournent vers le commerce de la ferraille pour tenter de gagner leur vie. Dans un contexte marqué par le chômage et les difficultés économiques, l'achat, la collecte et la revente des métaux usagés s'imposent comme une alternative de survie pour de nombreuses familles. Malgré les contraintes du métier, cette activité en plein expansion offre à ses acteurs l'espoir d'un revenu régulier et d'une certaine autonomie financière. Immersion dans cet univers avec Élise Gavira.
Leur cri devenu familier résonne chaque matin dans les avenues de Matadi. À leur manière, ces jeunes débrouillards annoncent leur passage à la recherche de la ferraille achetée.
À 6h du matin, je suis déjà debout. Je fais les tours de la ville en criant. J'achète la ferraille. On paye les kilos entre 200 et 250 francs congolais. Ceux qui choisissent la voie du banditisme sont des fainéants, des paresseux. Nous sommes des débrouillards. Nous préférons nous unir, travailler ensemble et aller de l'avant. Mais vous travaillez durement que voler.
Il faut noter par ailleurs que les hommes ne sont pas les seuls à tirer profit de cette activité. Pour Solange Tiancé, par exemple, ces dépôts de tri sont une véritable mine d'or.
Je viens acheter des morceaux de tôle pour fabriquer des braseros avec mes enfants. Ils ont obtenu leur diplôme, mais nous n'avons pas encore le moyen. En attendant, nous vivons de ce travail.
À l'issue de nos échanges, ces jeunes amoureux de la récup n'ont pas manqué d'adresser un message subtil au maire de Matadi. L'évacuation des épaves en cours dans la ville représente pour eux une aubaine à ne pas négliger. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'afflux massif des migrants dans l'enclave espagnole des Ceuta continue de susciter de réactions au sein de l'Union européenne. Réunis ce mardi en visioconférence à la demande de 22 États membres, les ministres européens de l'Intérieur ont examiné les conséquences de l'arrivée de plus de 72 000 migrants enregistrés la semaine dernière. Si cette crise a ravivé les divergences entre les pays membres sur la gestion des questions migratoires, la rencontre s'est déroulée dans un climat jugé constructif. Le 27 ont réaffirmé leur solidarité à l'égard de l'Espagne tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer la coordination et la communication européenne en période de crise. Bruxelles appelle désormais à une réponse commune face à ces nouveaux défis migratoires.
L'invité.
Face au défi de la malnutrition, les aliments produits localement peuvent-ils constituer une réponse durable? C'est l'une des questions au cœur de notre entretien avec le docteur Patrick Numbi Chikala, expert en nutrition et point focal épidémie et nutrition au programme national de nutrition, le Pronanut RDC. Il explique comment la valorisation des produits locaux et l'adoption des bonnes pratiques alimentaires peuvent contribuer à améliorer l'état nutritionnel des populations. Il répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Numbi Chikala Patrick, bonjour.
Bonjour madame.
Comment peut-on prévenir la malnutrition dans la communauté?
Oui, pour prévenir d'abord la malnutrition dans la communauté, il faut déjà commencer d'abord par le changement de comportement. Qui dit simplement qu'on commence par la sensibilisation de la communauté par rapport à leur situation de la malnutrition et puis leur dire tout ce qu'ils ont dans la communauté, ils peuvent les utiliser pour prévenir la malnutrition, toutes les productions locales.
Alors, vous, dans le programme national de la nutrition, vous avez toujours parlé des nutritions à assise communautaire que vous appelez NAC. C'est quoi son importance dans la communauté?
Merci beaucoup pour la question. D'abord, la nutrition assise communautaire, c'est une approche qui constitue l'ensemble des actions visant à prévenir les diverses formes de malnutrition. Alors, elle met en exergue toutes les connaissances endogènes et aussi, elle ressort aussi l'utilisation des produits locaux.
En formant les nutritionnistes, vous mettez en avant-plan les 1000 premiers jours de l'enfant. Quelles sont les interventions prioritaires, diront les premiers 1000 jours de l'enfant?
Les informations de la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours de l'enfant. Bon, la NAC met aussi l'accent par rapport aux 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire de la conception de la grossesse jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, donc jusqu'aux 24 mois. Alors, on suit la maman dès la conception de la grossesse par rapport à la CPN, on la suit et on suit aussi son alimentation. Et puis, à l'accouchement, la maman pratique, on dit, la mise au sein à l'air qui suit l'accouchement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'enfant va bénéficier de la mise au sein que l'accouchement bénéficie de cholestérol qui est comme son vaccin naturel, comme un laxatif, et ça prévient beaucoup de maladies chez l'enfant, qu'on voyait. Et puis la maman allait cet enfant là pendant 6 mois et on appelle l'allaitement exclusif, on donne rien du tout, et puis après 6 mois l'allaitement continue, puis c'est l'alimentation de complément, c'est ce qu'on appelle l'allaitement optimal. Et puis on suit aussi la maman son alimentation jusqu'à tel point que l'enfant aura plus de 2 ans.
Vous insistez sur les pratiques familiales essentielles. Est-ce que peut-on savoir connaître connaître ces pratiques familiales essentielles, c'est quoi?
Dans les pratiques essentielles, il y a d'abord les problèmes d'hygiène, l'hygiène de la communauté, aussi la fréquentation d'un hôpital, aussi distribution des mites. Bon, il y a beaucoup d'activités comme ça pour prévenir la malnutrition, surtout beaucoup plus on parle, beaucoup plus d'hygiène.
C'est-à-dire, l'hygiène peut être aussi considérée comme un facteur de la malnutrition?
Oui, évidemment, l'hygiène, c'est une partie de la malnutrition. Si vraiment il n'y a pas l'hygiène, vous voyez, manger des choses mal propres, ça peut créer des troubles abdominaux et ça peut créer les problèmes de la santé. Quelqu'un peut perdre automatiquement la santé et puis devient malnutri.
Maintenant, concernant l'alimentation, votre terme, c'est manger à 4 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Oui, nous conseillons de manger à 4 étoiles la communauté. Et quand on parle de 4 étoiles, on voit les céréales. Quand on voit les céréales, on voit les farines de maïs, les manioc, les bananes plantains. Ça, c'est les protéines végétales. Alors, vous pouvez ajouter comme protéines animales, vous achetez même les poissons, vous mangez même les poissons. Et à la fin, vous ajoutez fruits et légumes, ce que vous êtes dans les 4 étoiles.
On a l'impression que la population mange en désordre. C'est-à-dire, elle trouve des bananes ici, elle prend orange et ajoute, ananas quelque part, on ajoute, les foufous, il y a les riz. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Comment est-ce qu'on peut manger?
Voilà pourquoi on a parlé des changements de comportement. Des changements de comportement de la communauté. Donc, il faut les sensibiliser comment manger. Parce que localement, ils ont tout. Et c'est moi comment ils les utilisent. C'est-à-dire, moi, je conseille à la population, ils ont tout. Mais ils peuvent manger quand même la banane le matin. Bon, mange la banane ou l'ananas, c'est pas un problème. Mais à 12h, ils mangent quand même le foufou avec la viande ainsi que l'haricot. Ça, c'est bon. C'est moi. Tu peux pas manger sur les 4 étoiles une fois. Mais tu peux manger de manière, tu espaces les airs. Tu peux manger la banane ou l'ananas le matin. À 12h, tu manges les foufou avec les poissons, avec l'haricot. Le soir, tu peux ajouter encore même l'œuf ou tu peux ajouter peut-être quelques produits laitiers. Par exemple, comme je vis, il y a des maziwa. Tu peux prendre même les maziwa comme protéine animale, ça peut aller.
Et c'est-à-dire, il n'y a pas de conséquences si en un seul repas, on combine tout à la fois, les 4 étoiles.
Bon, il n'y a pas de conséquences si la quantité là est normale pour la personne. Mais si c'est beaucoup, il peut toujours espacer. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est que tu manges les feuilles de manioc le matin avec les foufou. À midi, tu manges encore les feuilles de manioc avec les foufou. Comme l'habitude que j'ai vu, tu vas tomber dans la malnutrition. Il faut diversifier.
Docteur Numbi Chikala Patrick, merci.
Ok, merci beaucoup.
Ainsi s'achève cet entretien avec le docteur Patrick Numbi Chikala, expert en nutrition et point focal, épidémie et nutrition au Pronanut RDC. Merci d'avoir partagé votre analyse sur les enjeux de la lutte contre la malnutrition à travers la promotion des aliments produits localement. Notre rendez-vous avec l'information s'achève ici. Merci de nous avoir consacré une partie de votre soirée. Retrouvez l'actualité à tout moment sur www.radiocapi.net ainsi que sur les plateformes numériques des Radio Capi. Très belle soirée à vous et à vos proches.